Salut à toutes et à tous, c'est Julie, vous écoutez 3 en 1 sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Nous entamons aujourd'hui notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de déboire ?
L'agriculture est en train de crever, sincèrement, toute production confondue, toute filière.
De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, votre émission d'actualité locale de Canal B, que vous trouvez chaque lundi et mercredi de 12h15 à 12h45. Et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent jeudi matin à 8h15, bonne écoute à 7h matinale. Et pour le sommaire de cette édition du mercredi 11 mars, j'ai réalisé une interview avec deux membres du collectif Solidarité Bretagne-Ukraine, devenu association en 2022. C'était le président de l'association et Ivana, la fondatrice. Ensemble, nous avons parlé de l'organisation de la solidarité pour le peuple ukrainien à Rennes. Et dans un deuxième temps, Manon, tu vas nous parler d'un rapport publié il y a quelques semaines.
Oui, c'est une étude intitulée « Les hommes et le masculinisme ». Et tu vas voir, Julie, je te ferai deviner quelques chiffres assez choquants. Cette étude montre à quel point le masculinisme peut avoir un impact sur la santé, et notamment la santé sexuelle. Julie, tu sais que dimanche, c'est le 15 mars ?
Oui, je sais, mais il y a un événement particulier ?
Bah Julie, ça fait un mois qu'on couvre les municipales et tu ne sais pas que dimanche 15 mars, c'est le premier tour des élections municipales.
Mais oui, évidemment, comment ai-je pu oublier ? Et maintenant, tu peux nous expliquer comment ça se passe, ce vote ?
Alors, à Rennes, les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h. 115 bureaux de vote seront ouverts dans 29 centres de vote. Sur le site internet de Rennes Métropole, vous pouvez retrouver un lien avec une carte interactive pour savoir où vous devez voter en fonction de votre adresse.
Et comment voter concrètement ?
Alors pour voter, les électeurs doivent se munir d'une pièce d'identité. Donc ça peut être votre carte nationale d'identité ou votre passeport, même périmé depuis moins de 5 ans, votre carte vitale avec photographie, une carte d'invalidité civile, une carte de mobilité inclusion en cours de validité avec photographie, ou tout simplement votre permis de conduire en cours de validité. Attention, il faut bien l'original et non pas une photocopie ni une photo.
Et comment on doit faire si on ne peut pas se déplacer pour voter ?
Eh bien, vous pouvez donner procuration. Pour cela, il existe 3 possibilités. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site maprocuration.gouv.fr ou sur le site de Rennes Métropole.
Et selon Ouest France, 130 000 électeurs seraient attendus dimanche 15 et 22 mars. Est-ce que les citoyens et citoyennes se mobilisent en masse pour les élections municipales en général ?
Alors, selon le quotidien d'information des élus locaux Maire Info, en 2026, la participation aux élections municipales pourrait tourner autour de 60%, soit plus de 3 points de moins qu'en 2014, et très loin des presque 80% de participation des municipales des années 1960. Et ce sont les jeunes qui devraient le plus manquer à l'appel. Et ce qui est inquiétant, c'est que selon cette étude, la baisse de la participation serait en partie due à un manque progressif de la croyance dans la capacité d'action des maires. En 2014, 81% des électeurs estimaient que le maire a la capacité de changer les choses. Ce chiffre est descendu à 71% aujourd'hui.
Pourtant, notamment en vue des présidentielles qui arrivent dès 2027, ces élections municipales sont d'une importance capitale.
Oui, et c'est pour ça qu'il faut absolument aller voter dimanche, parce que les municipales sont tout aussi importantes que les présidentielles, voire même plus. Les municipalités, elles peuvent être un contre-pouvoir très puissant. Les mairies gèrent écoles primaires, cantines, équipements sportifs, espaces verts, associations locales ou encore la sécurité. Alors que ce soit dans une grande ville comme Rennes ou dans des plus petites communes, chaque voix compte.
Allez donc tous voter les 15 et 22 mars prochains.
Thank you.
Vous écoutiez Birdsong de Lenny Lovitch sur le 94 FM et vous allez maintenant retrouver l'interview d'Ivana Kouchner-Baron et Pierre Le Foll de l'association Solidarité Bretagne-Ukraine à mon micro. Il y a 4 ans, le 24 février 2022, la Russie commence son invasion du territoire ukrainien. C'est la poursuite d'un conflit de longue date qui a débuté 8 ans auparavant, initialement concentré sur le statut de la Crimée et de certaines parties du Donbass. À Rennes, dès 2014, la mobilisation solidaire pour l'Ukraine s'organise. Le collectif Solidarité Bretagne-Ukraine se crée dans le but de constituer une plateforme médiatique pour représenter et protéger les intérêts du pays dans l'espace d'information français. En 2022, Solidarité Bretagne-Ukraine devient une association et ses actions s'étendent à de nombreux domaines. Elle organise notamment des rassemblements, des conférences, des projections de films ukrainiens, des cours de français et bien d'autres. En ce moment, du 24 février au 27 mars, l'association organise la commémoration du 4e anniversaire de l'invasion russe. Et cette année, le thème est « L'humain et la culture au cœur de l'engagement ». Et aujourd'hui, dans 3 en 1, nous recevons Ivana Kouchner-Baron, fondatrice de l'association et chargée de communication, et Pierre Le Foll, président de l'association Solidarité Bretagne-Ukraine, pour parler du rôle de la culture comme outil de résistance et de préservation de l'identité ukrainienne. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'évoquer en introduction l'histoire du collectif. Il a donc été créé dans le but de représenter et de protéger les intérêts de l'Ukraine dans l'espace d'information français. Pour vous, Ivana Kouchner-Baron, fondatrice de l'association, à quoi cela sert d'appeler à la solidarité pour l'Ukraine ici à Rennes ?
Parce que par rapport à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui et depuis 2014, ça nous concerne tous, où que nous soyons. Si nous soyons à Rennes ou en Ukraine, nous sommes tous concernés. Parce que la Russie, bien évidemment, elle ne vise pas que l'Ukraine. Elle vise nos valeurs fondamentales et l'ordre mondial et le respect et le droit international et le respect total, en fait. Et donc l'association en effet a été créée en 2022, mais avant, depuis 2014, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de rapprocher les Ukrainiens avec les Français, parce que l'Ukraine était longtemps dans l'ombre de la Russie impériale. Et la Russie, elle mène une guerre avec les chars en Ukraine, mais aussi une guerre informationnelle partout dans le monde.
Est-ce qu'il existait peut-être une communauté ukrainienne déjà à Rennes ?
Oui, il y avait une communauté ukrainienne, mais que je connaissais pas trop, parce qu'on se connaissait pas trop, on était assez disparates. C'est en 2014 qu'on s'est connus un petit peu plus, parce que des événements comme celui-ci, ils nous rapprochent, malheureusement. Enfin, voilà. Donc oui, il y avait une communauté présente à Rennes, des Ukrainiens.
Et donc, depuis sa création, l'association, elle s'est développée donc, dans de multiples domaines. Et en mai 2023, il y a une grande bibliothèque ukrainienne qui a ouvert ses portes à Rennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette ouverture, elle est symbolique dans la conservation de la culture ukrainienne ?
C'est important parce que vous avez pas mal des enfants, des mamans avec leurs enfants qui ont quitté l'Ukraine en 2022. Et aujourd'hui, au bout de 4 ans de guerre, vous avez des enfants qui sont nés en Ukraine, qui avaient peut-être 2 ou 3 ans, mais aujourd'hui ils ont 7, 8 ans et ils parlent français super bien, c'est super, c'est très bien, mais l'ukrainien, il est perdu. Et l'Ukraine, en ce moment, nous avons des militaires, des hommes et des femmes qui sont en train de combattre pour préserver l'Ukraine, son territoire, mais également sa population et également sa culture. Et pour nous, cette bibliothèque, c'était un moment de rapprochement de ces enfants, plutôt les enfants et les adultes, avec la culture ukrainienne et préservation de son socle culturel ukrainien au sein de nous, à Rennes.
Il y a un deuxième volet aussi, peut-être qu'on peut ajouter, c'est le fait que dans cette bibliothèque maintenant, on rassemble aussi des ouvrages en français sur l'Ukraine et sur la culture de l'Ukraine, de manière à ce que les Français, les bénévoles qui participent à nos activités ou qui sont intéressés par l'Ukraine puissent venir aussi prendre plus largement connaissance de la culture et de l'histoire de l'Ukraine. Et la culture, on l'a vu, est un élément vraiment important de l'affirmation de l'identité de l'Ukraine dans cette guerre.
Donc si je comprends bien, il y a vraiment une idée de de transmission intergénérationnelle et aussi interculturelle à travers cette bibliothèque.
Complètement, oui.
Oui, tout à fait.
Et sa création, elle est née de quelle initiative ? Est-ce que c'est vous, avec le collectif, qui avez monté ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de plus large, peut-être au national ? Comment ça s'est passé ?
Alors, pour vous dire la vérité, depuis 2022, l'association a fait beaucoup de projets très divers et variés, et tout ceci reflétait mon état émotionnel que j'avais traversé, parce que on voulait être partout, présent partout et faire tout. Et par exemple, la bibliothèque ukrainienne, c'était le 24 février. Quand j'ai vu que la guerre a commencé, j'ai dit, il faut qu'on fasse une bibliothèque. Parce que les gens vont venir, parce que les mamans vont venir, et il faut qu'on continue à lire, tous. Et il faut qu'on continue à s'informer, et se réinformer, et apprendre. Même nous, les Ukrainiens, on apprend plus des choses depuis 2022 sur la culture ukrainienne qu'on ne connaissait pas auparavant.
Oui, par exemple, on peut parler aussi du projet d'édition d'un ouvrage historique sur l'histoire de l'Ukraine, auquel l'association est associée en aidant les historiens qui sont des Ukrainiens, hein, et qui rédigent cet ouvrage, à le préparer de façon à ce qu'il puisse être ensuite traduit en français et puis diffusé assez largement en France.
Et ce livre-là, il est destiné vraiment au public francophone sur les liens historiques entre la France et l'Ukraine. Et on en découvre, parce que je suis la traductrice du livre, et on en découvre, oh là là, tellement on a des liens qu'on ne connaissait pas. Donc ça va être chouette.
Est-ce que vous avez par exemple un exemple de lien qu'on a et qui serait un peu méconnu ?
Un exemple du lien, tout de suite, je vais vous dire, par exemple, le gouvernement ukrainien qui existait entre 1917 et 1921, son gouvernement a été obligé de quitter l'Ukraine parce qu'il y avait les bolcheviks sont arrivés, et donc ils se sont exilés à Paris. Ensuite, Anna Yaroslavna, c'est la knyaheyna, une princesse de russe de Kiev, qui était en Ukraine, est devenue reine de France. Donc on a des petits liens comme celui-ci.
Et pour revenir un peu donc, au mois de l'Ukraine qui se tient en ce moment à Rennes, pour la 4e édition, ça devient donc un mois de l'Ukraine. Avant, c'était une semaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez voulu rallonger la durée d'un tel événement ?
Je pense que c'était important de pouvoir montrer une diversité d'événements, et ça rentre aussi dans le prolongement de la saison de l'Ukraine qui est organisée au niveau national, hein, et auquel on a participé avec une organisation faite par les Champs Libres, hein, au départ, où on a vu la projection de films ukrainiens donc au cinéma Larvor. Pour nous, c'était le début du mois de l'Ukraine. On a organisé une première exposition de Vitinanka, hein, je ne vais pas le prononcer comme il faut, qui sont des papiers découpés ukrainiens, qui sont une tradition ukrainienne, de grands papiers découpés faits par une artiste ukrainienne, donc, qu'on a pu exposer dans le hall du cinéma de Larvor. Donc c'était important parce que ça montrait aussi qu'il y a des choses toutes simples, mais qui sont très accessibles et qui peuvent être vraiment intéressantes à découvrir sur le plan artistique, et qui rejoignent l'importance de la tradition qui est rénovée en permanence aussi et réactivée pour réaffirmer l'identité de l'Ukraine. C'est un élément vraiment très, très important dans le conflit, parce que c'est un élément d'affirmation des personnes qui, je pense, en Ukraine aussi, pour certains d'entre eux, redécouvrent des éléments d'identité. On a ensuite organisé un premier concert des bandouristes, l'ensemble national des bandouristes d'Ukraine, hein, qui a eu lieu à l'église Saint-Paul samedi dernier. Donc là, on a rassemblé entre 350 et 400 personnes, et une ambiance qui était vraiment très, très chouette. Bon, il y a des images de ça qui peuvent être retrouvées sur YouTube ou sur notre site également. Et prochainement, on organise un autre concert qui va être important, je pense, puisqu'il se tient à la cathédrale. Et on fait venir un ensemble de Kiev qui est le Kyiv Chamber Choir, un ensemble de choristes de très grande réputation internationale. Hein, c'est un des plus grands d'Ukraine. Et ils ont chanté au Carnegie Hall, ils ont chanté dans toute une série de villes aux États-Unis, en Angleterre et en Europe. Et on consacre ce concert à une prière pour l'Ukraine, puisque ça sera dans la cathédrale. Donc le 27 mars à 19h.
L'entrée est gratuite, le don est libre sur place et tout l'argent récolté sera dirigé à la Fondation des pompiers de l'Ukraine parce qu'ils ont tout le temps des besoins de sauvetage pour financer des camions blindés de sauvetage. Et on vous invite vraiment tous à venir. Vous pouvez aller sur notre site internet et faire une réservation et avec plaisir de vous retrouver le 27 mars. Et je voudrais rajouter aussi pourquoi ça s'est transformé de semaine pour l'Ukraine à un mois pour l'Ukraine. Justement parce que c'est en Ukraine aujourd'hui, il y a un phénomène culturel qui est très particulier. Si vous allez en Ukraine, si vous voulez aller au cinéma, au théâtre ou avoir un concert, tout est complet. Les gens s'accrochent à la culture. Et cet événement saison ukrainienne culture contre attaque, parce que culture c'est aussi une arme, nous on a eu cette envie d'habitude, on a axé sur les projets géopolitiques et quelques expositions, mais cette envie ce mois-ci on a voulu, et même un mois c'est pas assez pour montrer tout ce qu'il y a à montrer, mais on a voulu axer sur vraiment la culture et l'humain comme vous avez dit, parce que ce sont les choses qui nous, la culture nous rend humains aussi. Et donc ce mois-ci, ça fait notre troisième édition qui est faite mois pour l'Ukraine.
Écoutez le duo ukrainien Dvidoli qui interprète le titre Oy ou Luzi Chervona Kalina tout en jouant de l'instrument traditionnel ukrainien dont on a entendu parler en première partie d'interview, le bandoura. Et on retourne tout de suite en plateau avec Ivana Kouchner-Baron et Pierre Le Foll de l'association Solidarité Bretagne-Ukraine. J'ai vu qu'un des prochains rendez-vous qui arrivait, c'était redécouvrir la culture ukrainienne. Et donc, l'intitulé un peu de cet atelier, il insinue que cette culture, elle est déjà peut-être connue. Et donc, selon vous, à qui est destiné un atelier comme celui-ci ?
À tout le monde qui souhaite redécouvrir ou découvrir ou à nouveau échanger sur le sujet, parce que le sujet c'est un puits inépuisable de toute façon. Comme je le disais tout à l'heure, la culture ukrainienne a été souvent négligée en fait, et même les Ukrainiens ont été persuadés eux-mêmes, les Russes, et ils ont réussi parfois à persuader des Ukrainiens que leur culture était marginale. Alors maintenant, quand on s'intéresse nous-mêmes, moi personnellement, quand je commence à m'intéresser à la culture ukrainienne de plus en plus, je trouve qu'il y a une telle profondeur et il y a à chaque fois ces dialogues intergénérationnels où les poètes, les écrivains des époques précédentes parlent à nous aujourd'hui et c'est toujours d'actualité ce qu'ils disent. En fait, il y a ce dialogue constant dans la musique, dans le cinéma, dans les romans, dans la littérature, partout. Et aujourd'hui, on est en train de discuter avec nos ancêtres et c'est super intéressant.
Lorsqu'une population quitte son pays, surtout dans un contexte d'exil, ce que les personnes emportent, c'est leur langue et leur culture. Est-ce qu'on peut dire que ce mois de l'Ukraine permet alors de préserver, de constituer une mémoire collective et une forme de résistance par rapport à ce que vous évoquiez sur la marginalisation de la culture ukrainienne ?
Bien sûr, parce que en fait, c'est très frais les émotions du concert du 7 mars. Je peux vous le dire, c'était un moment d'union et de force. Et c'était 40 chanteurs et musiciens qui sont venus de Kyiv, qui ont passé un hiver très dur. Mais ils nous ont ramené tellement beaucoup de chaleur, tellement beaucoup d'émotions fortes. Et en tant qu'Ukrainien, on a vécu un moment d'union, de consolidation de nos forces. C'est étrange parce que c'est eux qui nous ramènent de la force encore. Et c'est aussi, autre côté, c'est que les Français qui ont pu venir voir ce concert ont découvert ou redécouvert, parce que c'était la troisième visite de cet ensemble, mais c'est une émotion forte en fait, qui aussi, la culture, elle dépasse les frontières, elle dépasse ce côté émotionnel et humain, on est tous humains.
Oui, c'est quelque chose que j'ai aussi vraiment ressenti lors de ce dernier concert. Et notamment, les bandouristes ont fait chanter la salle en ukrainien. Donc les Français ne pouvaient pas chanter en ukrainien, mais le public ukrainien, lui, reprenait des chansons des bandouristes. Donc c'était vraiment chaleureux et puis quelque chose d'un moment vraiment fort. Et ils ne sont pas contentés de ça, mais ils ont aussi chanté une chanson en français. Aux Champs-Élysées de Joe Dassin. Et là, le public et l'ensemble de la salle, y compris les Ukrainiens qui étaient présents et qui parlaient le français, ont pu aussi reprendre ce chant. Et c'est un point vraiment intéressant aussi, l'occultation qui a été faite d'une partie de la culture ukrainienne. Et dans l'exemple de ce qui va se passer à la cathédrale le 27 mars, la musique religieuse orthodoxe est souvent pensée comme musique de l'Est. On pense beaucoup à la Russie. Mais en fait, il y a une tradition culturelle ukrainienne depuis le XVIe siècle de musique orthodoxe et de chant en ukrainien qui reste très forte et qui a été renouvelée. Et donc, à l'occasion de ce concert, donc on aura essentiellement de la musique contemporaine orthodoxe de grands compositeurs et en particulier Valentin Silvestrov, qui est un des grands compositeurs contemporains actuels qu'on peut comparer à Arvo Pärt ou à des musiciens de cette envergure.
Donc si je comprends bien, l'idée de ce mois de l'Ukraine, c'est de faire aussi un pont entre ces personnes qui ont émigré et celles qui sont restées en Ukraine. Comment, selon vous, la culture est vouée à évoluer en dehors de son territoire d'origine ?
Elle fera ce qu'elle a à faire, la culture. Elle va faire son chemin. Je ne m'inquiète pas. Vous savez, en Ukraine, il y a eu plusieurs vagues migratoires dans le passé. Et à chaque fois, une des communautés les plus fortes à l'étranger, c'est au Canada. C'est des Ukrainiens du Canada. Et à chaque fois, ces personnes ont même préservé la culture ukrainienne, puisque l'Ukraine ne pouvait pas lire en ukrainien, ne pouvait pas éditer des livres en ukrainien. Et c'est les diasporas canadiennes qui publiaient des livres en ukrainien et qui envoyaient en cachette, en contrebande, des livres ukrainiens pour que les Ukrainiens de l'Ukraine puissent accéder à des livres. Vous voyez, donc, on a ce processus. L'Ukraine est habituée à tout. Elle a quand même pas mal d'histoires les Ukrainiens savent s'adapter et la culture, elle va toujours survivre, où que les Ukrainiens sont. La culture, c'est ici, c'est à l'intérieur.
Oui, et puis je pense qu'on peut insister aussi sur le fait que l'Ukraine est ouverte, en fait. Elle est très ouverte à l'Europe et l'Ukraine est très moderne. C'est pas l'image qu'on pouvait en avoir, que moi j'en avais en tout cas, avant de découvrir vraiment l'Ukraine avec ce conflit et la présence des Ukrainiens ici. Et donc il y a vraiment une modernité qui puise, en fait, je pense, dans l'ensemble des cultures aussi qui sont partagées. Mmh. Avec les personnes qui sont exilées pour l'instant, mais qui rentreront probablement en Ukraine dès qu'elles pourront, et qui apportent de nouvelles choses. Et le mélange, je pense, c'est toujours fait. Enfin, c'est l'exemple qu'on donnait de la musique tout à l'heure. Il y a eu des mélanges très, très importants culturels. Et je pense que c'est quelque chose qui va se prolonger, doit se prolonger, mais prochainement dans le cadre européen, on l'espère.
Enfin, nous avons parlé du mois de l'Ukraine durant toute cette interview, mais est-ce que l'association Solidarité Bretagne-Ukraine a d'autres actualités qui arrivent après l'événement ?
Alors, chaque année, depuis le début de la guerre, donc au mois d'août, on commémore aussi la fête nationale ukrainienne.
Oui, en fait, 24 août, c'est le jour d'indépendance de l'Ukraine. Et depuis 2022, on fait, c'est la fête, parce que l'Ukraine est indépendante. Et on organisait les années dernières une fête de la danse et des concerts au parc Tabor. Et on espère pouvoir refaire le même événement cette année aussi. C'est un grand événement gratuit, ouvert pour tous. Et on est en train de le préparer aussi. Le 24 août, en été, il y a des expositions, pareil, la présentation de la culture ukrainienne, les chants. Et l'année dernière, il y avait des danses aussi.
Alors chaque semaine, de toute façon, en permanence, il y a des activités qui se tiennent au local, hein, qui est 12 rue du Faux-Pont, à Rennes.
4, pardon,
je me trompe tout le temps. Merci, Vanna. Et donc des activités auxquelles chacun peut venir participer, et puis les personnes peuvent aussi s'informer pour devenir bénévole dans l'association, si elles le souhaitent. C'est quelque chose qui peut nous aider à faire mieux connaître l'Ukraine et la situation des Ukrainiens à Rennes et dans la métropole.
Eh bien, merci beaucoup Ivana Kouchner-Baron et Pierre Le Foll d'être venus répondre à nos questions sur le plateau de 3 en 1. Donc, je le rappelle, Ivana, vous êtes fondatrice de l'association Solidarité Bretagne-Ukraine et chargée de communication. Et Pierre, vous êtes président de l'association. Merci à vous.
Merci. Merci.
Manon, tu vas nous parler d'une étude d'OpinionWay, une entreprise de sondage politique et d'études marketing françaises.
Oui, ce sont des chiffres qui ont été rendus publics en décembre 2025 à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, et ils mettent en lumière une montée inquiétante des discours masculinistes auprès des hommes en France, tout âge confondu, mais plus particulièrement chez les 16-34 ans.
Et pourquoi tu nous parles de ça aujourd'hui ?
Eh bien parce qu'il y a quelques jours, nous étions le 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes et des minorités de genre, et ceux qu'on appelle les mascus ne font pas vraiment du bien à cette lutte. Le problème, c'est que ces discours masculinistes sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux, et tout cela a des conséquences en termes de prévention et de santé, selon l'étude d'OpinionWay.
Et justement, que disent ces chiffres ?
Justement, Julie, tu vas devoir essayer de deviner les chiffres, sans indice. Déjà, globalement, les résultats de cette enquête montrent que les hommes adoptent un discours victimaire. Selon toi, Julie, combien d'hommes entre 16 et 59 ans trouvent que la société s'acharne sur eux ?
En vrai, je dirais, je sais pas, 40%.
Figure-toi que c'est plus de la moitié des hommes, 52% précisément. Et d'ailleurs, 36% pensent qu'il est plus difficile d'être un homme qu'une femme dans la société française aujourd'hui.
Et c'est même pas ça qui est le plus inquiétant.
Non, parce que ce qui est alarmant, c'est l'impact de ces discours masculinistes sur la santé. Il y a un pourcentage qui montre que la virilité intervient directement dans la décision de porter un préservatif ou non. Julie, devine combien d'hommes de 16 à 34 ans se sentent plus puissants quand ils ne portent pas de préservatif ?
Waouh, je sais pas, genre 15%.
La réponse, c'est 31%. Oui, près d'un tiers des 16-34 ans se sentent plus puissants quand ils ne portent pas de préservatif. Plus préoccupant encore, un homme sur 10 affirme comprendre le stealthing, donc le fait qu'un homme retire son préservatif sans prévenir son ou sa partenaire s'il estime qu'on le lui a imposé. C'est énorme parce qu'on parle donc d'un acte qui n'est pas consenti, mais ce n'est pas tout parce que le préservatif, on le sait, c'est le moyen le plus efficace de lutter contre les IST, donc les infections sexuellement transmissibles. Donc comme si les propos envers les femmes que l'on peut entendre sur les réseaux sociaux de la part de certains mascus, comme on les appelle, n'étaient pas suffisants, cette étude met en lumière que ces hommes peuvent aussi avoir des conséquences sur la santé et la prévention.
Et si vous souhaitez consulter plus de chiffres, ce sondage publié en décembre 2025 a été réalisé par OpinionWay pour Sidaction et il est intitulé « Les hommes et le masculinisme, merci Manon ». 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Ivana Kouchner-Baron et Pierre Le Foll, représentants de Solidarité Bretagne-Ukraine, d'être venus sur le plateau de 3 en 1. Et merci à Manon pour ta chronique. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller voter. Et ce sera la dernière édition de nos formats spéciaux municipaux. Alors soyez au rendez-vous. Bon après-midi ou bonne journée si vous nous écoutez en rediff.